Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2024 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle des jeux de société. Je suis Elodie et je suis accompagnée de Cyrus. Bonjour Cyrus.
Salut Elodie.
Et nous accueillons Marjorie Grégoire de Rejouons Solidaire. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Marjorie.
Alors Marjorie, tu es responsable de réseau à Rejouons Solidaire.
C'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Alors pour commencer cette interview, on a un petit fil rouge. Alors attention parce que cette année particulière, le fil rouge est en mêlée. Donc ce fil rouge, on va te poser des questions, mais il se trouve que ici, il est probable que les réponses se retrouve un peu en mêlée après tu vois après Cannes tout ça la fatigue voilà donc il y a un petit jeu pour les auditeurs c'est que il va falloir essayer de replacer les réponses en face des bonnes questions donc toi tu vas répondre normalement hein, voilà mais malheureusement on n'est pas sûr que après le montage ça se passe bien et on mettra les bonnes réponses en commentaire quelques jours plus tard je sais pas encore trop 10-15 jours après l'émission on mettra les bonnes réponses en commentaire. Voilà, mais rassure-toi, hein, y a rien de foufou, y a rien qui va dévoyer vraiment ta vraie la vraie toi dans ces questions. La première question, quel est pour toi ton jeu Madeleine de Proust?
Secret Hitler, je le trouve très drôle en jeu de rôle.
Okay, quel est ton genre de jeu préféré?
J'aime tout type de jeu, autant. Avec un groupe d'amis, faire des jeux de rôle un petit peu sympas, que des jeux de plateau qui peuvent être un peu plus longs un dimanche après-midi, ou alors des jeux très très courts avec belle-maman qui peuvent être un petit peu plus axés sur l'humour.
Est-ce que tu peux nous citer un jeu qui se trouve dans ta ludothèque mais dont tu as un peu honte?
Explosive Kitten.
Ok.
Tu pars pour 3 semaines et tu ne peux prendre qu'un seul jeu. Tu prends lequel?
Je pense que je resterai sur quelque chose d'assez simple, Just One.
Ok. Maintenant, t'es invité à une soirée chez des gens que tu ne connais pas. Tu dois ramener un jeu. Tu prends lequel?
En ce moment, j'aime beaucoup Love Letters. Mais c'est un jeu qui est pratique, qu'on peut emmener partout, qui est sympa. Les règles sont faciles à expliquer. Ça mêle un petit peu de tactique, avec un petit peu de chance quand même. Donc, j'aime beaucoup ce jeu en ce moment, en tout cas.
T'as prévu un méga tournoi de Challenger à 8, mais tous tes potes te font faux bon et tu te retrouves à 2. Tu sors quel jeu?
Eh bien, je jouerai bien avec mon fils de 2 ans à la soupe des écureuils.
Okay. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un jeu que tu aurais aimé inventer? Lequel, du moins?
Bon, peut-être le Secret Hitler.
Ouais, ok, ça marche.
Et à quel jeu aimerais-tu jouer tout de suite en sortant de l'interview?
Bah, Love Letters.
Okay. Merci pour tes réponses. Donc, tu fais partie de Rejouons Solidaire. Rejouons Solidaire, on a compris que c'était donc un réseau. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà les grandes lignes de ce réseau?
Oui, Rejouons Solidaire, donc c'est une association qui regroupe en fait les associations en France qui sont spécialisées dans le réemploi de jouets et l'inclusion sociale. C'est-à-dire que ce sont des associations qui sont à la fois sur du développement durable et qui vont intervenir dans le cadre de la réduction des déchets du jouet. Et en même temps, ce sont des associations qui emploient des personnes en situation de précarité et qui leur proposent justement d'être salariés pour travailler sur le réemploi de ces jouets.
Okay, d'accord.
Et donc le réseau Rejouons au Solidaire va regrouper donc 10 associations un petit peu partout en France.
Du coup, c'est né comment cette association? C'est né quand déjà?
Rejouons Solidaire, ça a été initié par 6 associations qui se sont regroupées en se disant que il pourrait être favorable pour elles de porter d'une voix leur activité et de faire vraiment reconnaître cette activité de réemploi. Et donc les associations ont commencé à discuter de ce projet en 2019, à monter des actions en commun. Et vraiment, l'association a été créée assez récemment, juridiquement en 2023, mais en réalité, elle est active dans ses opérations depuis 2019.
Et parce que du coup, c'était donc ces 6 associations de départ, c'est des associations qui faisaient la même chose en fait.
Exactement. Alors, il en existe peu en France, mais il en existe quelques-unes quand même, et on est vraiment très spécialisés. Si vous voulez. on a un travail qui peut être similaire à celui des recycleries, sauf qu'on va être très spécialisé uniquement sur le jeu et le jouet.
D'accord.
Qu'est-ce que tu y fais, responsable réseau, ça veut dire quoi ?
Alors, responsable réseau, ça veut dire que, je défends ces associations plutôt à un niveau législatif. Donc, j'ai un rôle plutôt de plaidoyer, c'est-à-dire quand il y a des nouvelles lois qui sortent sur le développement durable, je fais en sorte que ces associations soient reconnues. Je vais également les aider à se professionnaliser et à se développer. Donc, ça passe beaucoup par l'échange de pratiques, l'échange d'expériences, des ateliers, pour qu'on se rencontre justement. Et puis je vais également avoir une mission d'essaimage, c'est-à-dire que j'accompagne des porteurs de projets ou des associations qui souhaiteraient justement développer une activité de réemploi de jouets. Et donc je les aide dans la mise en œuvre de cette activité. C'est une forme d'accompagnement à l'entreprise.
Ces associations là, elles se sont montées comment par rapport parce que j'ai lu sur certains sites de certaines associations qu'il y avait un lien avec les fédérations du jouet, les fabricants, les distributeurs.
Dans les associations du réseau Région Solidaire, non, ce sont que des associations indépendantes qui, pour la plupart, portent des chantiers d'insertion, mais ce sont vraiment des associations indépendantes et autonomes.
Et quel est le lien entre la naissance de ces associations qui, du coup, donc je comprends, elles étaient quand même antérieures à 2019, toutes ces associations ?
Oui, bien sûr, on a des associations qui ont presque 15 ans et puis d'autres associations qui sont très récentes et qui sont dans leur première année d'activité.
D'accord. Parce qu'il y a une loi récemment qui est passée concernant le recyclage effectivement des objets, je suis pas du tout expert du domaine, mais peut-être tu peux nous en parler.
Ouais, bien sûr, c'est la loi AGEC et la REP jouet responsabilité élargie des producteurs. Il y a une injonction auprès des fabricants de jouets, donc des metteurs en marché et des distributeurs de rendre compte sur la fin de vie de leurs produits. Donc nous justement, les associations du réseau Rejouons Solidaire, nous sommes là pour les accompagner dans la fin de vie de leurs produits, puisque on est tout à fait en capacité de récupérer leurs jouets, de pouvoir les réemployer, de pouvoir mener des études sur la longévité de vie de leurs jouets. Voilà.
Comment se fait le lien justement avec ces distributeurs, fabricants et vous ? Parce que ces fabricants, j'imagine, eux, une fois que le produit ils l'ont vendu, finalement, ils ont plus de prise sur l'objet.
Alors, il y a un éco-organisme qui est en charge de la mise en œuvre de cette REP, qui est Écomaison, et qui justement équipe les distributeurs de bornes de collecte.
D'accord.
Et nous sommes vraiment donc les acteurs qui allons récupérer ces jouets. Donc la mise en lien se fait dans un premier temps comme ça. Et évidemment,
il y a les distributeurs en fait qui récupèrent les objets.
Il y a les distributeurs. Okay. Alors ce sont des particuliers qui déposent les jouets avec lesquels ils ne jouent plus, donc qui déposent les jouets dans ces bornes. Et puis après, on peut travailler également avec ces entreprises du jeu dans le cadre de leur RSE, responsabilité sociale et environnementale, avec lesquelles on peut également travailler pour récupérer, par exemple, les jouets qu'ils ne souhaitent plus mettre sur le marché parce qu'ils ont sorti des nouvelles éditions, par exemple.
D'accord,
c'est un exemple parmi tant d'autres. En tout cas, le volume de jouets inutilisés est vraiment énorme. Donc la question du gisement n'est pas un problème pour les associations. Les associations récupèrent vraiment énormément de jouets.
Ouais.
Alors l'ADEME évalue qu'il y a plus de 100 000 tonnes de jouets en France qui ne seraient pas utilisés.
Donc
qui dorment dans les armoires, ouais. Par exemple. Voilà,
Oui.
Qui sont mis à la poubelle. Et le jouet est un objet, on en parle encore trop peu, mais c'est un objet qui est extrêmement polluant, qui est principalement composé de plastique, fabriqué à l'autre bout du monde. Mmh. C'est un objet qu'on ne peut aujourd'hui pas recyclé, puisque très souvent, il est composé de différentes formes de plastique. Oui. Donc, on n'a pas trouvé la solution aujourd'hui pour le transformer. Donc, c'est pour ça que la question de la réemployabilité est extrêmement importante quand on parle de développement durable sur un objet tel que le jouet.
Ouais, quand tu parles de réemployabilité, c'est vraiment dire bah en fait on va pas le jeter, on va pas le chercher à le recycler, mais on va le remettre en service quoi.
Exactement. Voilà, c'est ça, lui donner une seconde vie.
Donc est-ce que tu peux nous parler de la structure Jouons Solidaires? Est-ce que vous êtes est-ce qu'il y a des salariés dans cette structure, je suppose, puisque tu es là?
Toi, t'es salarié du coup de cette structure?
Oui, tout à fait. Je suis salarié donc de Rejouons Solidaires. Donc, comme je vous disais, Rejouons Solidaires accompagne des personnes en situation de précarité. Donc, pour vous donner un petit peu l'impact qu'on a eu en 2023, c'est plus de 275 personnes qui ont été accompagnées vers l'emploi durable. Et bien sûr, je ne prends pas en compte les équipes permanentes qui au quotidien accompagnent ces personnes.
Du coup,
c'est dans toutes les structures, tu veux dire?
Dans les 10 associations en France, tout à fait. Okay. Et c'est notre annonce.
N'hésitez pas à venir rencontrer Alexandra et Marjorie au stand LK Pamplemousse et à déposer vos dons à l'accueil du festival au niveau moins 1.
Et ben là, on vient justement d'avoir une annonce, et c'est une annonce donc du festival pour inciter les éditeurs, si je ne dis pas de bêtises, à venir vous fournir leurs jeux qu'ils ont utilisé en démo, je ne sais quoi,
voilà, exactement,
à la fin du festival.
Oui, tous les exposants proposent justement leurs jeux, donc ils vont être utilisés pendant 4 jours, les boîtes vont être ouvertes, les exposants attendent énormément de public, donc on sait qu'il va y avoir forcément des petites pièces détachées. Donc là, on invite vraiment tous les exposants qui ne veulent pas repartir avec des jouets qui ont été usés pendant l'événement, de les orienter vers Rejouons Solidaires, puisque nous, on leur donnera une seconde vie.
Bon, on comptait en parler plus tard dans l'interview, mais bon, je trouvais que c'était plutôt drôle d'avoir l'annonce au micro qui correspondait. Donc, tu nous parlais, donc, juste avant la coupure, de l'aspect social et de Rejouons Solidaires, c'est ça?
Voilà, oui, qui est un pilier tout aussi important que le développement durable, puisqu'en fait, toutes les structures du réseau sont créatrices d'emplois et créatrices d'emplois locaux non délocalisables. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important.
Donc, tu parlais que ton travail aussi consistait en un essaimage, c'est-à-dire accueillir des nouvelles structures, c'est ça?
Alors, accompagner et former des porteurs de projets ou des associations sur leur territoire. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire émerger le maximum d'associations qui font du réemploi de jouets partout en France, vraiment pour démocratiser cette pratique, pour que les citoyens aient des solutions sur leur territoire, de donner leurs jouets et de créer aussi plus d'emplois sur les territoires, et qu'ils aient aussi des solutions de consommation éco-responsable, qu'ils puissent se tourner vers des structures qui font du réemploi qualitatif.
Il y a des porteurs de projets qui se présentent, ça c'est quelque chose qui monte, enfin qui, ouais.
Oui, actuellement donc j'accompagne 3 porteurs de projets et on a 7 porteurs de projets qui sont intéressés par la formation pour 2024-2025. Ce sont des projets qui sont assez longs à mettre en place puisque forcément c'est une structure, c'est une entreprise qui doit être créée avec toute une chaîne de production, avec des emplois à créer, donc ça demande forcément aussi une certaine volonté politique sur le territoire et une mobilisation des collectivités territoriales. Donc toutes ces raisons font que les projets sont assez longs à monter, mais quand ils sont inscrits sur le territoire, c'est un véritable impact social et environnemental.
Tu parles d'entreprise, mais tu nous as dit tout à l'heure que c'est des associations?
Oui. Dans le modèle, oui, ce sont bien des associations, mais dans le
ça fonctionne
modèle
un peu comme une entreprise,
d'émergence,
quoi.
Si vous voulez. Voilà, c'est ça. On gère quand même une chaîne de production avec des emplois tels qu'une entreprise.
Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que font concrètement, du coup, ces différentes associations au quotidien, vraiment, qu'est-ce qu'elles, peut-être la chaîne qui va de l'accueil, enfin de la récupération des jouets jusqu'à tu nous parles de leur réemploi.
Oui. Oui, alors ces associations, elles vont s'inscrire dans ce qu'on appelle une boucle d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'elles vont travailler de la collecte jusqu'à la remise en circuit, donc la vente de ces jouets. Et donc ces jouets vont passer donc par un système de collectage, un système de tri où ils vont être triés par catégorie de jouets. Dans certaines structures, on retrouve parfois plus d'une quinzaine de catégories. On va vérifier si ces jouets fonctionnent, s'ils ne sont pas cassés, s'ils sont complets ou non. S'ils ne sont pas complets, on va autant que possible essayer de les recompléter. Si ça n'est pas possible, ils vont être démontés pour enrichir justement toutes les zones de pièces détachées.
Ouais, pour faire les pièces détachées, du coup.
Exactement.
Pour qu'avec deux ou trois, on fasse un, quoi.
Tout à fait. En exemple tout simple, avec trois Monopoly, on va peut-être réussir à faire un Monopoly. Voilà. Ensuite, ils vont être nettoyés avec des produits écologiques qui sont confectionnés dans les ateliers. Et puis, ils vont être réétiquetés, remis en prix à des prix très solidaires, allant de 30% à 70% de moins que le prix du marché classique. Et puis ils vont avoir d'ailleurs tout au long de la chaîne de production avoir des phases de contrôle pour s'assurer qu'ils répondent bien à toutes les normes du marché, de la mise en marché européenne. Cette qualité du jouet, elle est vraiment très importante. Et pour vous donner un exemple, nous aujourd'hui, on est en capacité de fournir les crèches, les collectivités, les centres périscolaires. Ça passe par des marchés publics qui sont extrêmement exigeants. Donc ça, on a tendance à le donner en exemple puisque c'est un véritable gage de qualité.
Ok, d'accord. Mmh. Ouais, donc ça participe à toute une économie aussi locale avec ces marchés publics qui réalimentent, comme tu dis, bah les crèches, les écoles, etc. de la région, quoi.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un maillage d'acteurs économiques, socio-économiques, voilà, très riche pour le territoire.
Et concrètement, comment vous récupérez les jeux et sont où les points de collecte?
Alors les points de collecte, ils peuvent se faire de différentes manières. Alors au sein même des structures, dans les magasins de distribution affiliés Écomaison.
Affiliés Écomaison.
Alors Écomaison, c'est l'éco-organisme justement qui met en place.
Tout à l'heure.
Voilà,
okay.
La REP. Je vous invite à aller sur le site Rejouons Solidaires où vous pourrez retrouver justement les 10 associations et peut-être qu'il y en a une près de chez vous. Ouais. Aujourd'hui, bon, on peut pas encore être sur tous les territoires. Mais peut-être que vous trouverez une recyclerie ou un autre acteur qui pourra récupérer vos jouets. Et puis les associations, donc bien sûr, les récupèrent au sein de leurs ateliers, mais certaines ont également des partenariats sur leur territoire avec d'autres points de collecte. Et enfin, dans l'organisation des collectes, les associations travaillent également avec des entreprises qui organisent pour leurs collaborateurs, pour leurs salariés des grosses collectes de jouets.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Voilà, sous forme de mécénat de partenariat.
Okay. D'accord. Il n'existe pas dans les, je sais pas, j'imagine les jouets club, les, enfin, je sais pas, quelles autres marques de
King jouets,
etc. Tous ces trucs-là. Il n'existe pas des systèmes de collecte comme. J'ai n'importe quoi, mais comme on collecte les piles dans les supermarchés, les ampoules.
Et si justement, c'est là qu'intervient l'éco-organisme Écomaison, ouais. Puisqu'à partir d'un certain nombre de mètres de surface de vente, ouais. le magasin a une obligation, d'accord, de mettre à disposition une borne, comme tu l'as cité, okay, comme pour les piles, l'électronique, voilà.
Ok, bah j'avoue, j'en ai jamais vu.
Et ça, c'est très récent.
J'ai peut-être juste pas fait attention. Hein.
Okay. Oui, ils doivent pas les mettre en plein milieu du magasin, ils doivent bien mettre ça dans un petit coin.
Du coup, économiquement, ça fonctionne comment, ces structures? C'est uniquement la vente qui représente vos recettes? Ou il y a d'autres choses?
Non. Il y a bien sûr d'autres soutiens. Déjà par les dispositifs d'inclusion qui sont portés, on a des soutiens des départements et de l'État pour les emplois qui sont créés. Il faut savoir, pour vulgariser un petit peu notre organisation, les personnes qui sont employées chez nous, ce sont des personnes qui vont passer un petit peu à travers tous les filets de sécurité qu'on connaît aujourd'hui. Donc nous, on a vraiment ce rôle d'insertion, donc d'accompagnement à la fois sur des problématiques sociales et professionnelles. Donc le rôle que jouent ces associations, que l'État n'a pas pu réaliser. C'est pour cette action-là que ces associations sont financées par l'État. Donc il y a une grosse partie qui est financée donc par les institutions publiques. Et puis bien sûr il y a également une partie importante qui va être financée par des partenariats privés, donc des entreprises justement qui s'engagent et qui contribuent à soutenir notre activité. Donc soit par des actions opérationnelles telles qu'on l'a cité, la collecte, ou alors par des fonds pour nous aider justement à développer notre activité.
D'accord, sous la forme de dons du coup aux associations, quoi. Quand c'est des
Exactement,
privés.
Tout à fait. Okay. C'est une donation. Et la part des jouets est finalement extrêmement faible, ouais, dans nos modèles économiques.
Mmh. Ok. Voilà. C'est-à-dire, du coup, ça représente quoi, du coup, la part des ventes de jouets dans ce modèle?
Alors, tout dépend des structures, bien sûr, ouais, parce que au sein du réseau, la plus petite structure a 3 salariés en parcours d'inclusion, mmh, la plus grosse en a 70. Voilà, donc ce sont déjà des structures qui ont des tailles très différentes. Tout dépend aussi du modèle d'inclusion que vous avez. Dans les associations du réseau, vous allez avoir des chantiers d'insertion et ce qu'on appelle des entreprises à but d'emploi qui font également de l'inclusion. Pour vous donner un exemple, le modèle économique sur un chantier d'insertion ne peut pas excéder 30% de chiffre d'affaires sur la vente, d'accord, du jouet du budget global.
Mais c'est une exigence
de toute façon. C'est une obligation de ce conventionnement chantier d'insertion. Okay. Aujourd'hui, de toute façon, aucune de nos structures ne dépasse 30% de chiffre d'affaires. Le jouet est vendu à très bas prix. Ouais. Donc voilà pourquoi on doit trouver d'autres sources en parallèle, mais pour maintenir aussi toute cette activité sociale et de développement durable.
Comme on est quand même un podcast de jeux de société, on se demandait, ouais, quelle était la part des jouets, des jeux de société, puis on a vu que certaines structures faisaient aussi du livre et du puzzle.
Alors encore une fois, comme on a différentes structures, j'ai pas de chiffres précis, de pourcentage précis à vous donner sur la part des différentes catégories de jouets. Par contre, aujourd'hui, on se rend bien compte que les jouets premier âge, c'est tout type de jouets premier âge, c'est vraiment un volume qui est très important. Aujourd'hui, on l'explique aussi parce que dans le premier âge, l'enfant évolue très vite. Donc très vite, on a besoin d'un autre jouet. La notion du ludopédagogique, elle est importante dans la petite enfance. On reçoit un volume important de jouets premier âge.
Oui, ça doit être des volumes très importants de jouets gâchés, effectivement. Et en plus, il y a ce plaisir qu'on a toujours de vouloir offrir aux nouveau-nés, voilà. Et je pense effectivement, ces enfants sont ultra gâtés de nos jours.
Bien sûr, vous avez les anniversaires, les, voilà, Noël, la famille, ça,
toutes les raisons à côté aussi.
Exactement.
Et si on revient sur le jeu de société, comment, parce que c'est quand même pas évident vu le nombre de jeux qui sortent tous les ans, le matériel très spécifique de chaque jeu, comment vous faites pour les remettre en état quand il y a des pièces manquantes?
Eh bien, les structures ont des zones de pièces détachées, c'est une vraie expertise en fait, qu'ont monté les structures avec des processus de production et des zones avec des pièces parfois par marque, parfois par univers. Voilà, certaines structures ont aussi des bibliothèques de jeux de société incomplets avec des logiciels en parallèle pour pouvoir aller retrouver le bon jeu de société, savoir quelle est la pièce qui manque. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment une expertise qui a été développée par chacune des structures.
Et ça vous arrive de remplacer une pièce par une, c'est pas exactement la même, mais bon, ça peut avoir la même fonction, quoi.
Tout à fait. Si, ouais, ça ne dénature pas le jeu et qu'on peut jouer avec, on peut en effet parfois remplacer par une pièce qui n'est pas d'origine.
Ouais, d'accord. Okay.
Est-ce que ça vous arrive aussi de faire des impressions 3D ou genre de choses pour justement remplacer, recréer les pièces manquantes?
Alors, une des structures du réseau a une imprimante 3D. Ah ouais. C'est quelque chose qui pourrait peut-être se développer dans d'autres structures.
Ah, effectivement, parce qu'après ça demande une compétence, etc. C'est quand même, ouais, c'est pointu, quoi.
Et oui, et c'est tout l'intérêt justement d'être au sein de ce réseau pour les associations, c'est de pouvoir partager leur expérience et puis d'expérimenter sur certains territoires, de voir que des choses ne fonctionnent pas et que les autres ne reproduisent pas justement les mêmes erreurs. Ouais. C'est tous ensemble en fait qu'on va réussir à avancer plus vite.
Du coup, vous avez des moments où vous vous regroupez, non? Peut-être à un moment dans l'année, vous essayez d'organiser quelque chose, non?
Oui, oui, oui. Une fois par an, on se réunit tous dans l'une des structures okay. du territoire. Donc, peut-être que cette année, ça sera à Strasbourg, à Carichou. Okay.
Et est-ce que les éditeurs jouent le jeu? S'il vous manque des pièces, etc., est-ce qu'ils vous en renvoient? Comment ça se passe?
Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas de partenariat avec des éditeurs, mais ça serait évidemment génial de pouvoir travailler en coopération avec un éditeur qui pourrait justement nous fournir des pièces détachées. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas de modèle figé dans les partenariats qu'on propose. Les législations sont très récentes, donc l'idée, c'est vraiment de co-construire avec les éditeurs, avec les fabricants, avec les distributeurs, avec les metteurs en marché.
Eh, parce que bon, Feu Abba maintenant, par exemple, était parmi ces éditeurs, bon déjà qui fournit beaucoup de jeux joués hein, pour enfants. Donc j'imagine que vous devez avoir pas mal de jeux ou jouets Abba dans vos stocks. Et ils avaient cette politique de garantir du SAV. Alors après bon, c'est sûr qu'ils garantissent du SAV pour les particuliers. Après je sais pas comment ça fonctionne effectivement avec des structures comme celles qui sont sous Rejouement Solidaire. Tu parles de signer des partenariats, etc. Mais c'est des choses qui ont été tentées avec... je pense à ABBA, parce que ça me paraît le plus évident, mais...
C'est quelque chose qu'on va tenter aujourd'hui et on espère justement que cette nouvelle législation avec la REP Jouet soit incitative et en notre faveur les membres du réseau, et c'est notamment pour ça qu'a été créé le réseau Rejouement Solidaire. On l'a souhaité cette loi, c'est important d'en parler, hein. On a expliqué que le jouet était extrêmement polluant, donc c'est très bien, l'obligation est là. Maintenant il s'agit vraiment de sensibiliser les acteurs du secteur du jouet. Qu'ils comprennent aussi, voilà, qu'on fait pas ça pour les embêter, hein. Qu'il y a une vraie, conscience écologique pour tout le monde et que tout le monde joue le jeu.
Ouais, bien sûr. Oui, parce que la loi, elle est là, c'est une chose, mais après la mise en application, c'est autre chose. Et on comprend bien que vous êtes quand même un acteur, si ce n'est important, enfin, c'est même plus qu'important. Vous êtes, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme acteur en fait dans ce secteur? Du recyclage ou du remploi de jouets.
Alors dans le jouet, vous allez retrouver forcément qui sont beaucoup plus gros que nous les marketplaces.
Ouais, d'accord.
Je sais pas si je peux en citer, mais
il y a aucun problème.
Voilà, les Vinted, Le Bon Coin. Alors évidemment, nous on va plutôt inviter les consommateurs à se tourner vers le seconde main. La différence, bien sûr, qu'il y a avec nous, c'est cette partie emploi locaux.
Sociale, évidemment.
Voilà.
Hein, bien sûr.
Et puis, bien sûr, les personnes qui vendent sur ces marketplaces sont aussi des particuliers. Donc, nous, on est plutôt quand même favorable à ces démarches-là.
Bien sûr.
Les autres acteurs, là où c'est plus difficile, et nous on aimerait avoir des partenariats avec eux, ce sont les distributeurs qui vont monter leur propre enseigne de seconde main. Et là où nous on tire la sonnette d'alarme en disant mais attendez, il y a des acteurs associatifs qui existent, pourquoi on collaborerait pas ensemble? Est-ce qu'il est pas plus intelligent, puisque nous on fait ce métier depuis des années, on a une véritable expertise, donc comment travailler ensemble et ne pas monter des enseignes alors que des acteurs existent déjà. Et ça peut être véritablement dangereux pour nous. On se bat pas à armes égales.
Tu te battrais quelque part contre des entreprises qui peut-être d'ailleurs utilisent cette solution parce que la loi leur est imposée. Ils se disent comment on peut faire? On peut faire ça, et finalement ils n'ont pas connaissance de votre existence, et bim, quoi.
Et puis on l'a dit tout à l'heure, on est aussi sur des modèles économiques différents, donc il y a une notion de lucrativité pour la grande distribution, ce qui n'est pas notre rôle. Mais voilà, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait ensemble? Pour nous, il est là le combat.
Okay.
Et là, c'est votre première venue au festival de Cannes, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. C'est notre première au festival de Cannes.
Et donc, ça va être aussi l'occasion, je suppose, d'essayer de tisser des partenariats avec moult éditeurs présents ici.
Bah oui, on espère. Oui, tout à fait. On espère. On essaye déjà de sensibiliser à cette loi REP. C'est tout l'enjeu pour nous. L'enjeu du festival, il n'est pas tellement sur le grand public, sur ce salon, mais en effet, vraiment sur les metteurs en marché.
Bien sûr, mais on espère qu'on aura, nous de notre côté, réussi à te faire atteindre aussi le grand public. En tout cas, on voit, enfin juste voilà, pour parler un petit peu librement, limite je sors un petit peu de l'interview, là, mais on voit nous hein, le phénomène de cette loi qui s'est appliquée dans le domaine du jeu de société. On voit énormément de ventes privées, etc., où les jeux sont vendus au rabais parce qu'en fait c'est des jeux qui ne sont plus commercialisés, ils n'arrivent plus à trouver leur public. Donc les boutiques ne les achètent plus et les éditeurs ou les distributeurs, enfin plutôt les distributeurs, sont obligés de les proposent du coup aux boutiques au rabais qui vont ensuite les vendre moins cher. C'est une façon du coup qu'a trouvé le marché de jeux de société en tout cas pour respecter cette loi et voilà écouler en écoulant son stock quoi.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Maintenant, je suis ravie de vous avoir rencontré et puis merci pour cette belle mise en lumière de Rejoins Solidaires et de ces 10 associations.
Bah bravo à vous pour votre boulot. Hein.
Ouais, bravo, félicitations.
Merci.
Et merci beaucoup du coup pour ta contribution et ta participation à cette interview.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site. podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien
et rejouez bien.